France Musique. Musique Matin, Saskia Deville, France Musique.
Écologie et culture, d'ici quelques jours, seront dévoilés les résultats d'une étude sur les pratiques de déplacement des festivaliers et sur leur impact environnemental et économique. Étude menée par le COFIS, qui est le collectif des festivals éco-responsables et solidaires en région sud, Provence, Alpes, Côte d'Azur. Eh bien, nous en parlons en avant-première ce matin sur France Musique avec Véronique Fermé, qui est coordinatrice de ce collectif. Bonjour Véronique.
Bonjour Saskia.
Et bienvenue sur France Musique. Alors, que représente l'impact carbone des déplacements des festivaliers à l'échelle d'une manifestation, d'un festival ?
Alors, c'est des études ont été menées par un certain nombre de festivals avant cette étude que nous avons nous-mêmes diligentée en 2019. Hein. Ça représente environ 80% des émissions de gaz à effet de serre. D'ailleurs, c'est des résultats qu'on retrouve pour toutes sortes de manifestations. Donc, c'est vraiment l'impact le plus important des festivals.
Et sur lequel eh bien les festivals peuvent agir, et on va en parler ce matin évidemment. Vous le disiez, pour cette enquête dont les résultats sont à paraître, 9 festivals ont été analysés, ce qui représente une jauge de presque un demi-million de festivaliers, festivals qui accueillent toutes sortes de publics, tous styles musicaux. Hein. Il n'y a pas que la musique classique ici qui a été sondée.
Tout à fait. Hein. Nous avons des festivals de musique actuelle, de musique du monde, hein, qui ont participé à cette étude. Donc, ça nous permet d'avoir des indicateurs sur les mobilités de différents types de festivaliers, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, et leurs habitudes, leurs contraintes éventuelles, justement, par rapport à ces déplacements, mais aussi leurs attentes et leurs besoins.
Préoccupations donc partagées par le Festival d'Avignon, le Festival d'Aix, Festival de la Roque d'Anthéron, ça ce sont pour les festivals plus classiques. Il y a aussi les Nuits Carrées, les Suds, les plages électroniques de tous styles musicaux confondus. Et ce qui est intéressant, ce qu'on apprend dans cette étude, c'est que Véronique Fermé, une grande majorité du public juge cette démarche éco-festival importante.
Oui, on a constaté que à peu près 90% des festivaliers estiment que la démarche environnementale est importante, ce qui montre qu'on a raison de se lancer dans ces démarches environnementales. C'est un de nos enjeux, hein, bien sûr, répondre à ces attentes. Un autre enjeu est aussi de répondre aux attentes de nos tutelles. On le voit actuellement. Le ministère de la Culture a beaucoup avancé sur le sujet. On en parlait lors des états généraux des festivals. Madame Bachelot disait qu'il fallait continuer à travailler sur ce sujet-là. Mais il y a aussi le CNM, hein, qui, à travers certains appels à projets, pousse à la responsabilité des festivals.
Alors justement, parlons concrètement, Véronique Fermé, en termes de démarche, en termes d'action, qu'est-ce qui peut être mis en place avec les résultats de cette étude ?
Alors, on travaille en fait en collaboration avec des acteurs locaux, puisque cette étude a quand même été cofinancée par la région, le service mobilité de la région, le ministère de la Culture, la ville d'Avignon, mais aussi la SNCF ou Transdev, hein, qui sont des acteurs majeurs sur la région. On travaille aussi avec les chambres de commerce, avec les comités départementaux du tourisme, la prévention routière et Atmosud, hein, qui surveillent la pollution de nos espaces. Donc, on avec ces résultats, on va pouvoir réfléchir ensemble à un certain nombre d'actions. Déjà, communiquer sur l'offre existante, mieux collaborer justement sur ces sujets-là avec les transporteurs pour pouvoir informer les publics, puisqu'on s'est rendu compte aussi que pour trouver les informations de déplacement, les festivaliers allaient essentiellement sur les sites des festivals. On va pouvoir aussi mettre en place des mesures incitatives, pourquoi pas des billets couplés ou des petits cadeaux à ceux qui viennent en covoiturage. On va essayer aussi d'améliorer l'accueil des publics, dont les personnes à mobilité réduite, parce que c'est vrai que l'information n'existe pas toujours, hein, sur l'offre de transport pour ces personnes-là, avec peut-être aussi des cheminements et des accueils particuliers. On va également travailler sur la mobilité des équipes et des artistes. Certains festivals déjà travaillent avec des véhicules décarbonés. On a pas mal d'actions que l'on va pouvoir mettre en place, déjà par les festivals, les organisateurs eux-mêmes, et ensuite avec ce travail avec les transporteurs pour renforcer éventuellement l'offre existante sur les transports en commun, peut-être des lignes spécifiques, des navettes plus importantes.
Voilà, des horaires adaptés aux horaires de concert. Hein. Réflexion donc menée avec les collectivités locales et les transporteurs, parce que, pour se donner une petite idée, les chiffres sont impressionnants. Hein. Je prends l'exemple du Festival de la Roque d'Anteron, que nos éditeurs connaissent bien. 93% des festivaliers utilisent leur voiture pour venir au festival, parce que festival un petit peu décentré, contrairement par exemple au Festival d'Avignon. Ils font donc accompagner les festivaliers autrement, Véronique Fermé.
Oui, je pense que c'est important, justement, cette étude, de savoir quels sont leurs besoins et quelles sont leurs contraintes. Hein. On se rend compte effectivement que les festivals urbains ont plus d'offres de transport en commun que les festivals ruraux, comme le Festival de la Roque d'Anteron, qui d'ailleurs met en place des navettes et cofinance des navettes. Mais ils ont aussi travaillé sur l'hébergement, parce que souvent, c'est une problématique. Donc, on voit sur leur site l'offre d'hébergement local. C'est un peu un soutien justement à cette démarche pour les aider à utiliser les transports quand ils sont quand ils existent. Et c'est vrai qu'on a constaté, chose assez étonnante, hein, que pour le Festival d'Avignon, ben, en fait, il n'y avait que 32% des festivaliers qui utilisaient leur véhicule personnel. Hein, plus de la moitié utilisaient soit les transports doux, soit les transports en commun. Donc comment favoriser les transports doux ? Ben, c'est par exemple mettre en place des parkings à vélo, sécurisé bien sûr, avec peut-être des petits stands pour réparer les vélos. Il y a pas mal de petites choses comme ça qu'on peut mettre en place, comme entre autres mettre des bornes de recharge de téléphone, parce que certains festivaliers utilisent leur téléphone, leur voiture,
pour recharger le téléphone,
voire même dormir sur place quand ils ne trouvent pas d'hébergement. Donc il y a cette question de l'hébergement qui est assez important, pour lequel il faut que l'on réfléchisse avec les acteurs locaux.
Alors ça, évidemment, c'est une volonté commune des festivals, hein, de verdir leurs pratiques. Ils ont pour cela besoin quoi, d'un accompagnement financier ?
Pas uniquement. Je pense que il y a aussi cette réflexion à avoir, c'est comment justement communiquer sur ce qui existe et faire comprendre aux transporteurs que bah, parfois il faut peut-être adapter ou même informer, mieux informer, même dans les gares, pourquoi pas faire un accueil spécifique pour que les derniers kilomètres soient facilités. C'est toujours compliqué, effectivement, la question environnementale dans les festivals et ce besoin financier. Mais parfois, il y a des choses qui sont assez simples à mettre en place. Comme je vous disais, cet accompagnement, cette communication. Donc c'est vrai qu'on a besoin de travailler en collaboration avec les transporteurs, mais aussi revoir nos propres pratiques.
Thank you.
l'Aragonaise, extraite de Carmen de Georges Bizet. Véronique Fermier, vous êtes coordinatrice du COFIS qui a donc mené cette enquête sur les déplacements des festivaliers, mais vous êtes également chargée de mission au développement durable du Festival international d'art lyrique d'Aix-en-Provence, festival très engagé en matière d'écologie. Alors évidemment, Carmen, on ne l'a pas choisi par hasard hein, ce matin, Véronique.
Oui, tout à fait. Hein. C'est notre première production 100% éco-responsable avec un décor 100% réutilisable, recyclable, zéro polystyrène. C'est quand même un gros décor. Hein. 16 tonnes, 750 éléments. Et donc, c'était le Carmen de Dimitri Tcherniakov en 2017. Et c'est le fruit d'un travail que nous menons depuis 2014 déjà.
Qu'est-ce qui a donné envie au festival justement de s'engager sur cette voie-là ?
Alors on avait fait en 2012 un bilan carbone, on s'était rendu compte, comme je disais tout à l'heure, qu'on avait 80% de nos impacts qui étaient dus au déplacement, et on s'est dit comment on peut nous travailler vraiment à réduire notre empreinte environnementale. Et comme on est producteur et constructeur de décors, on s'est dit c'est peut-être là-dessus qu'il faut qu'on commence à travailler, puisque on construit 3 à 5 décors par an dans nos ateliers de Venelle, ils vont tourner entre 3 à 5 ans et puis après ils reviennent chez nous. Et on les déstocke et on les jette. Donc on s'est dit, est-ce qu'on ne peut pas éviter justement de les jeter et avoir une réflexion très poussée sur l'économie circulaire, hein, qui est un grand mot, mais qui est aussi un sujet d'une loi actuelle sur l'économie circulaire. Et avec l'aide de l'ADEME et de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, on a pu commencer à travailler autant sur nos propres productions, mais sur des outils aussi que l'on partage avec d'autres maisons d'opéra.
Et on en a parlé la semaine dernière avec Timothée Fleury, responsable du bureau d'études de l'Opéra de Lyon, de ces outils qui sont en test, encore en phase test, et qui vont être, on l'espère, partagés par de grandes maisons à travers la France. Est-ce que, tiens, c'est plus facile de concevoir des décors 100% en éco-conception pour un festival que pour une grande maison d'opéra ? Est-ce qu'on a plus de temps pour dans le cadre d'un festival, Véronique Fermier ?
Oui, tout à fait. Hein. Nous, on a à peu près un an pour construire ces décors, donc ça nous permet de tester autant les matériaux que les process. Donc c'est comme ça que justement on est arrivé à ne plus utiliser de polystyrène en le remplaçant par du liège. C'est d'ailleurs le cas du Carmen. Hein. On a réussi à faire les pierres de rogne qu'on voit sur les murs totalement en liège. Même le metteur en scène ne s'en est pas rendu du compte. Mais ça demande quand même d'avoir une réflexion en amont assez poussée sur justement que vont devenir ces décors en fin de vie quand on arrivera justement au moment du déstockage. Et ça, c'est des habitudes, de nouvelles habitudes de travail qui parfois ne sont pas évidentes, de nouvelles contraintes. Mais finalement, on s'est rendu compte parce que c'était rentré dans les mœurs. Et autant les directions techniques, le bureau d'études que les ateliers avaient bien intégré ça dans leur procédure et dans leurs travaux.
Alors là, on parle du secteur de l'opéra, Véronique Fermier, de ses collaborations avec l'Opéra de Paris, le Châtelet, la Monnaie à Bruxelles, l'Opéra de Lyon. Mais cela ne concerne que l'opéra. Est-ce qu'on peut imaginer une collaboration à l'échelle du secteur culturel ? Je parle notamment en termes d'économie circulaire, des scénographies. Timothée Fleury nous parlait la semaine dernière d'imaginer la standardisation de certains éléments de décor. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut imaginer de partager entre l'opéra, le théâtre, les salles de musique actuelles pour certains éléments?
Alors c'est vrai que ça c'est aussi un des travaux que nous menons justement sur cette standardisation. Alors déjà commençons par le monde de l'opéra parce qu'on a quand même pas mal de choses à échanger, puis nous avons des coproductions, donc c'est beaucoup plus facile de travailler justement avec l'Opéra de Lyon sur cette problématique de standardisation pour ne faire voyager et transporter que les parements en fait des décors et pas toutes les châssis. Mais c'est vrai quand on a commencé à travailler, on pensait déjà être un peu fou d'imaginer de travailler sur l'économie circulaire dans ce sens-là. On a mis en place des laboratoires, des rencontres déjà en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, et puis après au niveau national, et sont venus à ces laboratoires, bien sûr, les maisons d'opéra, les théâtres, et on a vu arriver les production audiovisuelle, le cinéma, la télé, le cirque et les musées. Et là, on s'est dit, bah, effectivement, il y a des choses à faire ensemble parce qu'ils ont les mêmes problématiques, c'est-à-dire qu'ils vont concevoir des scénographies peut-être moins imposantes, mais ils ont cette même problématique de fin de vie, de matériaux. Et on a commencé à échanger sur, bah, est-ce que vous n'avez pas tel ou tel matériau à nous céder parce qu'on n'en trouve pas et puis on voudrait faire justement de l'économie circulaire. Donc, il y a eu vraiment cet échange. On a cassé les murs finalement, on a commencé à travailler avec eux, on collabore entre autres sur la région avec le MUCEM. Qui a vraiment cette réflexion poussée sur qu'est-ce qu'on fait et comment on conçoit nos scénographies. Donc je trouve que c'est très intéressant justement d'avancer ensemble. Parmi les outils que nous on a développé, on a un guide méthodologique de conception des décors. Alors bien sûr sur notre modèle à nous, un festival, et on est en train de rédiger la version 2 et on a fait appel justement à tous ces acteurs en leur demandant ben, qu'est-ce qui serait intéressant d'ajouter dans ce guide qui pourrait vous servir. Et on travaille également à une matériothèque, puisqu'on teste des matériaux chez nous, mais il y en a d'autres qui testent d'autres matériaux, que ça soit justement dans le cinéma ou le cirque avec lequel on collabore beaucoup.
Et il y a certainement effectivement de bonnes pratiques à partager, Véronique Fermé. J'aimerais qu'on dise deux mots de ce réseau R2D2, collectif des réseaux régionaux d'accompagnement des manifestations en développement durable. En quoi est-ce différent? En quoi le Festival d'Aix est-il, engagé?
Alors, ce collectif informel réunit 8 dispositifs d'accompagnement dans différentes régions en France. Au départ, on s'est rencontrés pour échanger sur nos bonnes pratiques. Et puis finalement, on a commencé à se dire, est-ce qu'on pourrait pas mener ensemble des actions collaboratives? Et on a justement adapté une charte anglaise qui s'appelle Drastic on Plastic, pour lequel 60 festivals anglais avaient signé. Et nous, on a voulu apporter quelque chose de supplémentaire, en fait, et surtout valoriser cette charte. Donc, il y a un gros accompagnement des festivals qui signent la charte. Et aujourd'hui, on est très, très fiers. On a battu les Anglais et nous avons 100 festivals qui ont signé cette charte.
Je crois qu'il y a... Allez-y.
Et c'est vrai que ça fait partie, voilà, des projets qui sont importants. On travaille aussi sur l'accueil des artistes, comment accueillir plus de façon plus responsable les artistes, et cette fois-ci de tout type de disciplines artistiques, que ce soit bien sûr les musiques actuelles qui sont très en avance sur le sujet, mais aussi les artistes de théâtre.
Et une large majorité des publics qui jugent la démarche éco-festival importante avec cette constatation, Véronique Fermier, aucune raison pour toutes les salles de spectacle, les festivals, les collectivités locales, les transporteurs de se réunir encore à l'avenir pour améliorer cet accueil du public, évidemment aussi très important. Je rappelle cette étude sur les pratiques des déplacements des festivaliers, étude menée par le COFIS, dont les résultats seront dévoilés la semaine prochaine. Merci beaucoup, Véronique Fermé, d'avoir été des nôtres ce matin. Bonne continuation. Tenez-nous au courant, surtout de l'évolution des choses. Et puis, on aura le plaisir certainement de vous accueillir à nouveau sur nos ondes. À très bientôt.
Merci, au revoir.
À réécouter sur francemusique.fr.